Dans les résultats auxquels nous sommes arrivés, il y avait très peu d'effet du temps passé aux activités de décodage. En revanche, beaucoup d'effets sur les activités consacrées à l'encodage. Aux activités pendant lesquelles les enfants passent de ce qu'ils entendent à une écriture. Alors, dans la typologie des tâches que j'ai vous ai fait survoler tout à l'heure, vous n'avez pas eu le temps de lire, on a donc identifié trois tâches qu'on a regroupées sous le nom d'encodage. Les moments de dictée, lorsque vous dites à vos élèves, écrivez ça, et le ça, ça peut être des syllabes, des mots, des phrases, des textes. Les moments où vous leur dites, reconstitue à partir de ces étiquettes, c'est des étiquettes syllabes, ils font des mots, c'est des étiquettes mots, ils font des phrases, c'est produit quelque chose, mais refait de l'écrit à partir de bribes, et il faut que tu passes par du son. Et puis, ce qu'on appelle au sens large des essais d'écriture, de la production d'écrit, des moments où ce sont les enfants qui décident de ce qu'ils écrivent. C'est ça la différence entre dictée et production d'écrit, c'est que dans un cas, c'est vous qui décidez, dans l'autre cas, c'est eux. Mais dans les deux cas, ils passent de ce qu'ils entendent à quelque chose qui est une trace graphique. Donc ces activités d'encodage, on en a identifié en moyenne 22 minutes par semaine en dictée, 5 en manipulation d'étiquettes, différents types, et 25 en moyenne sur l'année et dans toutes les classes de type essai d'écriture où les enfants rédigent ou écrivent. Parfois, c'est deux mots, une légende sous un dessin. Hein, ça commence comme ça, évidemment. Là encore, autour de cette moyenne qui cumulée fait 54 minutes par semaine, 54 minutes pendant lesquelles ils encodent, des écarts forts entre des classes dans lesquelles on écrit très peu, quand je dis on écrit très peu, au sens on encode très peu. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'écrit pas beaucoup, notamment vous allez voir juste la rubrique après, c'est la copie. Mais la copie, ce n'est pas de l'encodage. Ça peut en être, mais ça n'en est pas du tout automatiquement. Donc, 54 minutes en moyenne par semaine avec une très forte diversité d'une classe à l'autre. Vous voyez, 10% des classes y consacrent que 20 minutes tout cumulé. C'est très peu, c'est très clairement trop peu. Là, on a les données statistiques quand on met tout dans le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est un modèle mathématique assez sophistiqué. C'est, toute chose étant égale par ailleurs, les enfants qui ne bénéficient pas au moins de 45 minutes par semaine sont pénalisés. Et pour en tirer un bénéfice, les élèves les plus faibles doivent en bénéficier d'au moins 62 minutes dans la semaine en moyenne. Vous ne transformez pas ça en une règle de métier de demain matin, je dois faire 62 minutes de... On est d'accord, mais c'est les résultats de la recherche, donc je vous les donne avec les chiffres qu'on a, et puis ça vous donne les indications, les tendances. Une heure sur la semaine, ça fait un quart d'heure par jour. Hein. Un quart d'heure par jour, en cumulant les moments où c'est sous la dictée et les moments où c'est une écriture plus spontanée, enfin plus personnelle, et voir les moments d'étiquette. Donc c'est pas... ça rien d'extraordinaire. Hein. Mais en dessous de ce quart d'heure par jour... sur la semaine à 4 jours, hein, j'ai acté, sur ces 62 minutes par semaine, puisque c'est comme ça que nous avons calculé, on avait des semaines à 4 jours et des semaines à 4 jours et demi, les élèves faibles sont pénalisés. Pratique pédagogique sur la dictée, le chiffre de tout à l'heure, il globalisait dictée et production écrite, si on regarde que la dictée, c'est clair, il y a des classes dans lesquelles il y a zéro dictée. Il y a quasiment zéro dictée toute l'année, d'ailleurs. Voilà. Puisque, en moyenne hebdomadaire sur l'année, on a 3 minutes de moyenne sur l'année. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand je vous disais que d'un CP à l'autre, il se passe des choses très, très différentes, il se passe des choses vraiment très, très différentes, mais surtout, ce n'est pas forcément les mêmes qui sont dans la partie à gauche en rouge sur tous les domaines, on est bien d'accord, hein. Même s'il y a aussi des effets de cumul, parce que autour de cette moyenne de 7h20, on a des classes qui ont 4-5 heures à disposition des élèves et les autres qui en ont 10,5 ou 12. Donc il y a aussi, en termes de temps cumulé, des temps différents. Mais c'est surtout la répartition de ces durées qui est très très variable. Sur les tâches d'encodage autonome, même disparité. Il y a des classes dans lesquelles les enfants n'écrivent jamais un mot dont ils décident eux-mêmes pendant l'année de CP. Alors ça peut être des classes qui font que de la dictée et pas d'écriture autonome, d'autres qui font que de l'écriture autonome, pas de la dictée. Il y en a qui font très peu d'écriture, d'autres qui en font beaucoup. Enfin, il y a toutes les combinaisons possibles, puisque là, j'ai isolé les deux variables. Donc c'est juste une petite photo. Ce qui est sûr, c'est que l'effet bénéfique de cette écriture sous la dictée, quand j'ai dit écriture sous la dictée, c'est encore une fois, ça peut être des syllabes, des mots, des phrases. Hein. Et selon l'année, la proportion varie. On est d'accord ? Plus on en fait, mieux c'est, jusqu'à un seuil de 40 minutes. Au-delà de 40 minutes, il n'y a plus de progrès. Il n'y a pas de... Ça fait un effet de palier par rapport à nos courbes mathématiques. Un effet de plafond. Et cet effet est d'autant plus fort que les élèves sont initialement faibles. Sur la dictée. Et l'effet est plus fort en dictée qu'en production autonome chez les élèves faibles. Et là, on retrouve une explication qui a à voir avec ce que madame évoquait tout à l'heure. C'est que quand vous leur donnez des choses à écrire sous la dictée, vous choisissez probablement de leur faire écrire des choses dont vous savez qu'ils peuvent y arriver. Parce que vous leur faites écrire des choses que vous leur avez enseignées. Du coup, on a exactement la même logique de motivation. C'est « j'essaye ». La maîtresse a dit que je peux y arriver, je vais y arriver. D'ailleurs, elle est là pour moi, elle va m'aider et ça va être bon. Ouais. C'est ça le geste qu'il faut rechercher. Hein. C'est ouais. C'est celui-là qui est au cœur de la pédagogie efficace de la lecture-écriture. Ouais. J'y suis. Donc oui, bien sûr que vous faites des choix astucieux de ce que vous leur donnez à écrire. Puisqu'en gros, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites travailler leur mémoire en faisant ce que les neurosciences nous apprennent comme étant le plus pertinent pour faire travailler la mémoire, c'est d'aller rechercher en mémoire. On ne sait pas très bien installer les choses, ou plutôt on sait d'autant mieux les installer que on les installe pour aller les y retrouver. Donc c'est parce que vous leur faites écrire des choses sous la dictée que vous les obligez à aller rechercher en mémoire des correspondances entre phonème et graphème que vous leur avez préalablement enseigner. Et c'est ça qu'il faut faire de manière régulière et systématique et explicite. Mais si on l'a appris, souviens-toi. Voilà. Et c'est pour ça que c'est... Les productions autonomes ont également un bénéfice, mais c'est un bénéfice qui est plus visible chez les intermédiaires et les forts. Il faut s'assurer de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, de ne pas faire que de la production autonome. Il faut qu'avec nos plus faibles, on ait vraiment une dose régulière de remobilisation de choses qu'on a déjà appris à écrire.